Bonjour, c'est Lucie, c'est le début de l'émission d'Info Locale et au sommaire aujourd'hui, l'info du jour, c'est l'Ille-et-Vilaine qui passe en état de vigilance sécheresse. Un reportage aux côtés d'un Wikimédien en résidence au musée de Bretagne à Rennes. Il y aura de la musique dont une nouveauté, une interview avec l'autrice Anne Lecourt pour son livre Paysanne et puis deux recommandations nature pour occuper votre dimanche. Bienvenue dans l'arène.
Et maintenant, on va retrouver Bobonne, les mots croisés et la radio.
La beauté d'une voix, c'est qu'elle remplit seule une salle immense.
Restez une minute, je vais vous parler.
Je vous écoute.
Bientôt, l'heure de la révolution nationale sonnera.
Et vive la reine !
Vive la reine !
Allez, on commence avec l'info du jour que j'ai retenue pour vous. L'ensemble du département d'Ille-et-Vilaine est placé en état de vigilance sécheresse depuis hier, jeudi 15 juin. L'année dernière, cette annonce elle avait eu lieu plus tôt dans l'année, au mois d'avril, à titre de comparaison, et avait duré jusqu'en janvier, soit 8 mois en situation de vigilance. Là, la décision a été prise lors de la 5e réunion du comité de gestion de la ressource en eau d'Ille-et-Vilaine en fin de semaine dernière. Comité composé de nombreux acteurs institutionnels, mais aussi de professionnels de la météo, du monde agricole, de la recherche, le tout piloté par le préfet. L'analyse est la suivante. Si le printemps 2023 a été pluvieux et le cumul de précipitations supérieur aux 5 dernières années, les 20 derniers jours ont été majoritairement secs et ont eu un impact fort sur le débit des cours d'eau et l'humidité des sols. Un impact renforcé par les températures élevées et le vent prononcé qui ont favorisé l'assèchement des sols. Fin de citation. Si le niveau des ressources mobilisées pour la production d'eau potable est jugé satisfaisant, les représentants des syndicats de production d'eau potable ont alerté sur la vidange des barrages. En clair, les barrages se vident rapidement et le niveau d'alerte pourrait être atteint d'ici 20 jours du côté de Saint-Malo s'il ne pleut pas. Conséquence de l'annonce de cet état de vigilance sécheresse, le comité incite les consommateurs à réduire leur usage en eau, qu'ils soient des particuliers, des entreprises ou des collectivités, et renvoie vers une campagne nationale, chaque geste compte, c'est le nom de la campagne, où on nous conseille d'installer des mousseurs sur nos robinets, d'éviter les bains ou encore d'installer un récupérateur d'eau de pluie dans son jardin. Une nouvelle réunion du comité aura lieu d'ici 3 semaines pour faire le point. Encore une fois, on panique la sécheresse arrivée sans pousser la réflexion au-delà d'un simple coup de pommade. Allez, après cette info du jour, c'est l'heure d'un reportage. Et on part pas loin au musée de Bretagne qui est hébergé au sein des Champs Libres ici à Rennes où un Wikimédien est en train de vivre les derniers mois de sa résidence. Nicolas Vigneron a commencé par contribuer bénévolement à Wikimédia dont le volet le plus connu est Wikipédia. C'est aujourd'hui son métier et il n'arrive pas à s'arrêter et continue même à contribuer bénévolement quelques heures en plus chaque soir. Sa mission au sein de sa résidence elle est double, enrichir les pages grâce aux ressources du musée de Bretagne et puis former les collègues du service pour poursuivre cette démarche rencontre.
La plupart de mes collègues disent à quoi ressemble l'article sur notre institution, le musée de Bretagne. Et en fait, c'est pas forcément le musée le plus intéressant pour l'institution elle-même parce que en fait, ce que veulent les gens, c'est voir les objets dedans et arriver en fait un peu comme des panneaux indicateurs dans la ville. Il faut mettre des panneaux indicateurs dans d'autres articles. Donc on peut partir effectivement d'une œuvre, la Brigitte du Ménézôme, qui est un peu notre Vénus de Milo. Du musée de Bretagne, une petite statuette antique qui a un article, un très bon article sur Wikipédia. Et ça, c'est ce qu'il y a de mieux, je trouve, parce qu'on met en avant non pas le musée lui-même, un peu publicitairement, mais les ressources du musée ont permis de bâtir un article sur un objet assez majeur dans l'Antiquité rennaise. Voilà. Alors bonjour, je m'appelle Nicolas Vigneron et je suis actuellement Wikimédia en résidence au musée de Bretagne. Je contribue sur Wikipédia et je forme aussi mes collègues à la contribution. Donc actuellement on est dans la salle des inventaires très exactement du musée de Bretagne. C'est le lieu où on a toute la documentation, donc là vous ne voyez pas mais on est entouré d'étagères avec des dossiers sur chacune des 700 000 œuvres du musée. Et j'y suis depuis août dernier jusqu'à fin août 2023.
On commence par parler de votre parcours avant d'arriver ici en résidence. À quel moment est-ce que vous découvrez Wikipédia et plus globalement Wikimédia ?
Déjà à savoir que Wikipédia, ça existe depuis janvier 2001. Et moi, je l'ai découvert pas très longtemps après, en 2004. Alors, un peu par hasard, un accident de la vie, entre guillemets, mais j'étais normand avant, je suis arrivé à Toulouse, et je ne connaissais pas grand monde, c'était le début d'Internet, et en Internet, dans les années 2004, il n'y avait pas encore grand-chose, et je suis tombé sur ce site un peu par hasard. On ne tombait pas facilement encore dessus à l'époque, mais je cherchais des trucs précis qui étaient dessus. Puis j'y suis retombé 2-3 fois et je me suis pris au jeu. Et donc voilà, ça fait presque 20 ans que je suis wikipédien bénévole maintenant. Et au fur et à mesure de mes contributions, je me suis rendu compte que Wikipédia, ça fonctionne pas magiquement. Ça fonctionne parce qu'il y a des bénévoles et que des bénévoles, il faut les former. Donc moi, vu que j'avais un peu d'expérience, très naturellement, au fil des années, j'ai commencé de plus en plus à aider les autres. Ah ben non, pour faire insérer une image, vaut mieux faire comme ça, comme ça. Pour récupérer tel lien avec telle chose, voilà. Et puis à tel point que j'ai fini par en faire mon métier. D'abord, pendant 2-3 ans en tant qu'auto-entrepreneur. Ensuite, l'an dernier, j'étais à Clermont-Ferrand. J'étais Wikimédia en résidence à la bibliothèque patrimoniale et à la bibliothèque universitaire de Clermont-Auvergne. Et là, depuis presque un an, au musée de Bretagne.
En tout, j'ai lu, c'est quoi? C'est 18 000 contributeurs bénévoles aujourd'hui sur Wikipédia, qui est le versant le plus connu de Wikimédia, mais c'est plus large que ça, on dit ce qu'il y a autour.
Alors, ce qu'on appelle les projets Wikimédia, c'est un ensemble de près d'un millier de sites, en fait. On pense toujours à une Wikipédia, mais déjà, Wikipédia, ça existe en plus de 300 langues. Il y a la Wikipédia en français, naturellement, en anglais, on y pense aussi, mais en breton, en basque, voilà, plus de 300 langues, hein, plus que de nombre de pays dans le monde. Et il n'y a pas que Wikipédia, il y a aussi sur la même déclinaison d'encyclopédie. Parmi les plus connus et les plus actifs, et les plus intéressants pour les personnes qui veulent le lire aussi, évidemment, il y a le Wiktionnaire, un dictionnaire. On a aussi Wikimedia Commons, que les gens connaissent sans le savoir, puisque c'est là où sont stockées toutes les images. On a Wikisource, une bibliothèque en ligne, Wikidata sur la data, et etc., etc., tout un tas de déclinaisons.
En tant que contributeur à Wikipédia, Wikimedia, quand vous étiez bénévole ou aujourd'hui, quels sont vous vos sujets de prédilection?
En fait, moi, ma spécialité, c'est vraiment plutôt aider les autres. Mais il m'arrive quand même souvent de retomber sur ce que j'appelle, entre guillemets, des vieilles pierres. Hein. Donc le patrimoine, et puis surtout ce qu'on appelle à tort le petit patrimoine, le genre, de, par exemple, de menhir qui serait détruit à Carnac parce que les gens ne savent pas qu'ils existent. Bah, c'est ça qui m'intéresse le plus, de faire découvrir des choses qui sont aussi intéressantes, qui sont parfois méconnues. La patère de Rennes, j'ai pas encore fait grand-chose. Alors c'est un objet qui devrait être conservé au musée de Bretagne, normalement, mais qui, en fait, pour des raisons historiques, est parti à Paris il y a très longtemps, dès le XVIIIe siècle, mais qui est quand même un des objets en or massif les plus grands, les plus beaux qui a été trouvé, de l'époque romaine, peut-être même de l'Europe, en fait, et qui a été trouvé à Rennes, et mais qui est parti à Paris, parce qu'il était justement aussi beau que ça. Mais du coup, pour l'instant, on n'a pas beaucoup de photos, donc j'ai ajouté un dessin d'époque, et peut-être que je ferai encore 2-3 autres améliorations. Je suis en train de regarder la bibliographie. Quelle document parle de cet objet pour pouvoir écrire l'article.
Alors comme vous avez un peu créé votre profession là, de wikimédien, on est d'accord, il n'y en a pas d'autres en France?
Alors, j'ai réinventé le métier, quelque part, mais en fait, c'est quelque chose qui existe depuis une dizaine d'années dans le monde, et un des premiers, d'ailleurs, c'était au château de Versailles, il y a 10 ans. Donc je ne suis absolument pas le premier en France. Mais ça a été oublié, pour une raison X ou Y, les gens n'ont pas vu l'opportunité. Il y a eu quelques résidences aussi à Lyon, dans différents endroits. Il y en a eu 5 ou 6 en France en 10 ans. Et puis là, depuis presque 2 ans, il y a eu moi à Clermont-Ferrand, re-moi à Rennes. Mais il y en a aussi 3 en université actuellement. Donc à Rennes, encore une fois, il y a un tropisme rennais. Et Bordeaux et Toulouse ou aussi dans leur université, un Wikimédia en résidence. Donc c'est quelque chose qui revient et qui, j'espère, va perdurer longtemps.
Là, on se retrouve plutôt sur la fin de votre année. À quoi ont ressemblé les mois qui viennent de passer ici?
Déjà, globalement, mes deux grandes missions, moi, je contribue. Et d'ailleurs, en fait, par contribuer, ça veut dire beaucoup de choses différentes, parce que ça veut souvent dire commencer par lire un article, parce que s'il y a des manques, s'il y a des choses à mettre à jour, à corriger, encore faut-il connaître l'article. Je ne connais pas tout, il y a la Wikipédia en français, c'est 2,5 millions d'articles. Il y en a des dizaines et des dizaines qui sont liés de près ou de loin au musée de Bretagne, des milliers qui sont liés à la Bretagne en général. Donc j'ai lu les plus intéressants, j'ai corrigé, j'ai pu par exemple apporter des photos issues des collections du musée de Bretagne, là où elles manquaient. Je me limite même pas à la Bretagne d'ailleurs, parce que dans les collections, on a des photographes bretons qui ont parcouru le monde et fait des photos de la planète finalement. Donc moi, dès qu'il y a un lien avec le musée de Bretagne, j'ai pu l'exploiter. Et ça, c'est à peu près un quart, un tiers de mon temps, ça dépend des journées. Et ensuite, le plus important, c'est finalement la passation de mon expérience. C'est que une résidence, comme une résidence d'artiste ou une résidence de médecine, c'est sur un temps court, un an. Et l'idée, c'est de lancer une dynamique, de planter des graines pour que d'autres personnes, en l'occurrence mes collègues, puissent en partie au moins continuer sur les fondations que j'ai posées. Il resterait tellement de choses à faire.
C'est infini, quand même.
C'est infini. Oui, parce que de toute façon, il y a toujours des choses. Il y a tous les 6 mois une nouvelle exposition au Musée de Bretagne qu'il faudra mettre à jour. Donc, je ne mettrai jamais à jour tout ça. Le Musée de Bretagne, c'est... Alors, on ne sait même pas exactement combien on a d'objets, mais on a au moins 700 000 objets au Musée de Bretagne. Notamment beaucoup de photos, de négatifs anciennes qui sont inestimables. Mais je n'ai pas pu trouver tous les articles Wikipédia où elles auraient pu être pertinentes. Et il y en a encore beaucoup. Mais bon, je me dis que je laisse un peu d'exercice et de travail pour mes collègues pour après. L'article Rennes, je ne suis même pas sûr d'être vraiment passé dessus en lien avec le musée. Sur Wikipédia, on peut toujours aller dans l'historique et voir qui a écrit. Et je suis passé, mais j'ai pas dû faire grand-chose. Mais c'est un peu aussi ma stratégie, c'est de passer un petit peu sur chaque article et faire ici et là des petites améliorations, vraiment. Finalement, c'est pas parce que je suis Wikimedia en résidence que j'ai plus de poids dans la communauté. J'ajoute comme n'importe qui. Donc là, en l'occurrence, il y avait une phrase où il y avait pas de... qui manquerait d'une référence. Donc j'ai indiqué à mes collaborateurs, Wikimédiens, Wikimédiennes, d'ajouter une référence. Le musée de Bretagne, ça fait déjà plusieurs années, en fait, avant même mon arrivée en tant que Wikimédia en résidence, qu'ils ont une démarche globale d'ouverture et de partage des collections. Un musée, c'est un lieu où les gens viennent et peuvent découvrir des choses. Il y a un musée physique où il y a quelque chose comme 5000 objets présentés, mais sur les 700 000 objets du musée, tout n'est pas visible. Et ça a commencé donc du coup, très logiquement, par une photothèque, un portail des collections en ligne, depuis 2017, si je ne me trompe pas, qui permet de voir les objets qu'on ne voit pas justement habituellement. Et toute cette démarche, qui a été couronnée finalement quelque part par mon arrivée en tant que Wikimédia en résidence, a été en plus reconnu au niveau national par l'association Wikimedia France, qui a donné ce qu'on appelle le label culture libre, qui a été donné à une quinzaine d'institutions en France. Et en plus, assez fièrement, on peut dire qu'on est une des deux institutions en France à avoir eu le label or, le meilleur des trois niveaux de ce label.
Sur les, peut-être les travers ou les reproches qu'on peut adresser surtout à Wikipédia, quand ça a commencé, c'était plutôt, notamment dans le milieu scolaire, on disait « faites attention, revérifiez vos sources ». C'est toujours le cas, même si, comme il y a beaucoup de contributeurs, ça s'est affiné sur ce qu'on peut y lire et c'est devenu fiable. On est d'accord là-dessus ou pas ?
Alors moi, je conseille toujours de prendre du recul. Le dicton que j'utilise, c'est « si ça a l'air trop beau pour être vrai, c'est que c'est sans doute trop beau pour être vrai ». Faut toujours faire attention à ce qu'on lit. Il peut toujours arriver qu'au mauvais moment, on tombe sur un mauvais article. Même si c'est amélioré, c'est jamais parfait. Et tout comme, d'ailleurs, une encyclopédie papier qui n'est pas à jour, il peut toujours y avoir un problème. Donc, moi, je conseille toujours de se méfier en fonction de ce que vous voulez faire. Si vous êtes le soir attablé au comptoir à dire « Oh, quel âge a telle personne ?» Regardez Wikipédia, il n'y a pas d'enjeu s'il y a une erreur. Si vous en êtes à rédiger votre thèse, n'utilisez pas Wikipédia comme source ou juste comme première approche et allez creuser derrière.
L'autre reproche, il est lié à, au fonctionnement même de Wikipédia et à la nature des contributeurs qui sont surtout des hommes, a priori plutôt des hommes blancs, éduqués. Et donc, ça a un impact sur ce qu'on y lit, en fait, sur Wikipédia. Oui.
Alors, c'est vrai d'ailleurs d'Internet en général.
Qui a été conçu, d'ailleurs, plutôt par des hommes blancs éduqués.
Voilà. On sait que même des sites comme Twitter, Facebook, etc., les réseaux sociaux, on sait que les femmes sont minoritaires, voire très minoritaires. Et nous, sur Wikipédia, alors... Nous, on ne traque pas du tout nos contributeurs ou nos lecteurs, donc on n'a pas le chiffre précis. On a eu des études ponctuellement et qui disent qu'effectivement, on est à peu près dans la communauté de contributeurs et contributrices, à peu près à 20% de femmes. Et, comme par hasard, dit-il sur un ton ironique, dans les biographies de personnes, dans les articles Wikipédia, dans les contenus, on retrouve aussi 20% de femmes. Corrélation n'est pas causation, mais on se doute très bien que tout le monde sur Wikipédia est bénévole, contribue sur ce qu'il veut bien. Donc, les gens contribuent sur ce qu'ils aiment, et souvent, c'est des hommes blancs qui écrivent sur des hommes blancs. Ça se voit, ça se vérifie pour le biais de genre, ça se vérifie aussi encore plus douloureusement, entre guillemets, sur les articles de la moindre commune de France de 10 habitants à 3 pages d'articles dans Wikipédia, un département entier d'un pays africain, lui, à 3 lignes. Et c'est vrai pour tout un tas d'autres prismes de vue, des angles de vue qui sont un peu biaisés. Heureusement, il y a entre 15 et 20 000 contributeurs, contributrices chaque mois sur la Wikipédia. Il faudrait juste rééquilibrer un peu plus certains points. Et du coup, on est toujours demandeur dans la communauté d'avoir des personnes qui viennent s'engager et corriger ça. Alors, le système est autocorrectible. Plus qu'un savoir des choses elles-mêmes, j'ai une connaissance de où trouver l'info. Je ne connais pas les 700 000 objets du musée de Bretagne, mais je sais globalement ce qu'on y trouve. Donc là, par exemple, je savais aussi que Yvonne Jean Affen, qui est une artiste bretonne, n'avait pas de photo, et je savais où chercher.
C'est vous qui avez rajouté la photographie, là.
Ça, c'est une photo qui vient du musée de Bretagne, effectivement.
Alors vous, ça a pris une place qui est quand même hyper importante dans votre vie. Vous le faites même à côté du travail.
C'est une passion, un sacerdoce. J'utiliserai pas le mot drogue, mais vu le temps que j'y passe, certains pourraient le qualifier comme ça. Effectivement, moi, j'y passe maintenant mes 7 heures de journée de travail tous les jours et je rajoute une heure ou deux le soir parce que ça me manque quand même. Et il y a tellement de choses à faire, en fait. C'est là le côté quand même addictif, un peu. On a commencé à écrire quelque chose. J'ai fait les églises du nord de l'Ille-et-Vilaine. Ah, il faut que je fasse le sud maintenant ou tel département. Et comme une pelote qu'on détricote, bah, c'est jamais fini.
Alors pourquoi cette forme-là et, je sais pas moi, l'écriture sous forme littéraire, dans un livre, un documentaire, pourquoi ce choix de Wikipédia ?
Non, moi je suis très Wikimédia. C'est le proverbe « seul on va plus vite et ensemble on va plus loin ». Moi je pourrais pas écrire un article Wikipédia tout seul du début à la fin. Il y a le texte, la relecture du texte. J'ai tendance à semer plus de fautes d'orthographe que je n'en corrige, malheureusement. Je fais des photos correctes, mais sans plus. J'ai pas forcément accès à tous les points de vue. Et c'est ça l'intérêt de Wikipédia, et c'est ça qui fait qu'on y reste, finalement. C'est qu'on y reste aussi pour une communauté où, moi, je vais souvent lancer des squelettes d'articles, lancer des propositions. D'autres personnes vont venir corriger, compléter, dire « t'as bien travaillé la partie géographique, mais il manque la partie historique ». Chacun va apporter sa petite pierre à l'édifice. Et on est très satisfait à la fin de voir qu'on a construit quelque chose qu'on n'aurait jamais construit seul, qu'on a construit ensemble.
C'est une communauté qui se rencontre parfois in a real life.
Pas tant que ça, finalement. Hein, parce qu'il y a sur la Wikipédia en français voilà, à peu près 20 000 personnes. Dans la région rennaise, on est une quinzaine. Et on est 4 ou 5 à se réunir de temps en temps, notamment le jeudi soir, pour discuter dans un milieu plus convivial, on va dire.
Là, en 2023, on est à un moment où Internet, dans son usage le plus massif, est surtout marqué par la place des réseaux sociaux dans notre vie. Et à côté de ça, il y a Wikimedia qui, plutôt, a été ce qui s'est fait de plus beau dans le contributif, le participatif et lié au logiciel libre. Vous, quel est votre regard sur Internet en 2023 ?
Déjà, moi, j'ai eu la chance et le privilège d'être sur Internet depuis 20 ans. Donc, j'ai bien vu des évolutions. Moi, je suis assez optimiste. Effectivement, il y a des gens qui utilisent mal ou à mauvais escient. Voilà, on parle même de fake news et de tordre des résultats d'élections avec les réseaux sociaux. Je me dis qu'il y a toujours eu ça. Il y a toujours eu des presses vulgaires, des gens qui écrivaient des graffitis sur les murs de Pompéi. C'est quelque chose qui n'est pas nouveau. Internet démultiplie ça à une dynamique un peu différente. Je reste globalement optimiste parce que dans voilà, tout cet marasme d'Internet, on trouve quand même des diamants, des sites qui donnent espoir en l'humanité de façon un peu grandiloquesque. Voilà, dont Wikipédia, mais on peut citer OpenStreetMap pour les cartes ou tout un tas du monde du logiciel libre et des contenus libres qui prouvent que avec les bonnes conditions, les gens peuvent encore construire toujours des choses qui vont vers l'avant et qui, moi, me rendent personnellement optimiste. Voilà.
We'll be right back.
Population 2 avec le morceau Beau Baptême. C'est une nouveauté musicale qui a été repérée par notre programmateur Yann. Un morceau qui arrive 2 ans après la sortie du premier album de ce groupe, À la hauteur. C'était sorti chez Castle Face Records. Et avec ce nouveau single, le trio montréalais Population 2, eh bien, il officialise sa signature chez le label Bon Sound. Vous écoutez Canal B sur le 94.0. Peut-être êtes-vous connecté en ligne sur le site canalb.fr. On passe à l'interview du jour. Bonjour Anne Lecourt.
Bonjour Lucie.
Vous habitez près de Rennes, je crois, hein. Vous êtes une habitante de la région.
Alors, je suis originaire de Rennes et j'ai vécu plus d'une vingtaine d'années, effectivement, à l'ouest de Rennes. Il se trouve que je viens juste de déménager, mais bon, je sors de la campagne, voilà, profonde.
On continue à vous présenter. Votre boulot, c'est traductrice, mais en plus de ça, depuis 2016, vous collectez la parole autour des sujets de l'identité bretonne et puis des femmes. Et l'ouvrage que j'ai, là, juste à côté de moi, il s'inscrit dans ce travail. Paysanne, c'est son titre. C'est paru aux éditions Ouest France au printemps 2023. Pour parler un peu du point de départ à ce projet, il faut revenir un peu en arrière. Il y a eu un autre livre publié il y a quelques années sur un thème un peu connexe.
Oui, c'est le livre des discrètes, voilà, qui est un livre de paroles de femmes nées à la fin des années 20, début des années 30. Voilà, femmes qui n'avaient jamais exprimé, à vrai dire, de retour, de point de vue sur leur parcours personnel et qui acceptent, au crépuscule de leur vie, de me raconter leur vie de femme ordinaire et prétendument sans histoire.
Peut-être que le point commun entre votre travail de traductrice et puis ce projet-là de collecte de paroles de bretonnes, c'est finalement que ce n'est pas votre voix qu'on entend, mais
absolument,
celle des autres.
C'est vrai. Cette posture-là, qui est d'abord une posture d'effacement, qui est liée sans doute à mon métier de traductrice, d'abord, voilà, cerner un propos et le restituer au plus juste de sa vérité. Et puis l'autre réalité, c'est aussi le plaisir d'être à l'écart, d'être dans l'observation, à vrai dire, et donc l'écouter et de pouvoir rendre compte de façon de vivre, de parler et en quelque sorte faire très très modestement une espèce de travail de sociologie, en tout cas de s'inscrire dans un désir de préservation d'une culture orale d'abord, populaire et collective, voilà, et petit à petit finalement de participer à un effort de mémoire.
Vous dites en ouverture de ce livre, dont le titre est Paysanne, je ne sais pas grand-chose, je n'y connais même rien, c'est tant mieux, on m'explique d'où elle vous vient cette envie, avec cet ouvrage là qui est sorti au printemps, d'aller écouter le monde agricole. J'ai aussi lu dans un article que vous étiez même un peu fâchée avec ce secteur-là avant d'écrire et
de
rencontrer.
C'est vrai, quand je suis partie récemment, j'étais fâchée après cette agriculture intensive que j'avais voilà, sous le nez, sous les yeux, avec des tracteurs immenses, des bêtes qui s'en vont, des haies qui disparaissent et des chênes très vieux qu'on abat. Donc je suis partie fâchée et j'ai pas osé le dire à mon éditeur. Et je me suis dit, bon ben, c'est l'occasion ou jamais. Dans les discrètes, il y avait un accompagnement de la parole qui était difficile à dire et là, il y avait plutôt un désir d'un droit de réponse, d'une tribune, d'expression libre, voilà, pour essayer de comprendre un petit peu, parce que c'est toujours plus facile de juger, de s'insurger quand on est de l'extérieur et quand on rentre dedans, les choses sont beaucoup plus complexes, en vérité.
Thérèse, Catherine, Nathalie et Samantha, Annie, Laurence, Karine, Fabienne, Florence, Flora, Cassandre et Marie-Hélène, je les ai toutes citées. Mmh. Une dizaine de femmes, 12 exactement, dont une mère et sa fille, il y a un binôme à un moment dans le livre. Des femmes paysannes qui travaillent ou ont travaillé dans le Grand Ouest, on dépasse la Bretagne actuelle. Vous les avez choisies comment? Déjà, vous avez pris celles qui acceptaient, parce qu'a priori ça a été pas si facile que ça de trouver des personnes partantes pour ce projet-là?
C'est très difficile en fait de parler de soi quand on accepte de se retourner ou d'aller ouvrir des tiroirs qu'on pensait bien clos. Enfin, on prend un risque, ce n'est pas sans risque de parler de soi. Je ne les ai pas véritablement choisis. J'ai cherché autour de moi qu'est-ce qui pourrait faire dans la diversité. Donc j'ai fait jouer mon réseau, les copains, les voisins, mais aussi les associations, les groupements de paysans et de femmes agricultrices. Les collèges, les lycées, je voulais quelque chose de très représentatif. Voilà. À partir du moment où j'en ai eu assez, à peu près, j'étais très limitée par le temps, en vérité, par mon éditeur. J'ai décidé de ne pas choisir, comme avec les discrètes, c'est-à-dire d'exploiter et d'aller accueillir et tout ce qui pouvait se présenter chez elles. Voilà.
Le résultat, c'est qu'on a des femmes très différentes en âge, concernant aussi le territoire où elles exercent, et puis leur agriculture, puisqu'il y a plein d'agricultures différentes selon qu'elles travaillent avec le végétal ou avec des animaux. Une fois que vous les avez contactées, qu'elles ont accepté, quelle méthode de travail se cache, s'il y en a une, vous les avez rencontrées chez elles avec, on le comprend, des paroles qui sont plus ou moins bavardes selon les personnes et selon les sujets qui sont abordés. Il y a par exemple Annie qui n'était pas sûre de bien vouloir se confier, par exemple. Quel temps vous avez passé avec elle et comment vous avez recueilli leurs paroles ?
En fait, il n'y a pas de méthode, c'est une rencontre. Voilà. C'est la rencontre qui dicte la façon dont on va écrire. Elles sont très différentes les unes des autres. Celles qui ont accepté d'emblée avaient des choses à dire. Plutôt la confédération, la sensibilité de la confédération paysanne, des gens qui sont dans l'écologie, dans l'agriculture biologique, qui ont une démarche plus militante, plus intellectuelle, voilà. Donc elles avaient beaucoup de choses à dire, ces femmes-là. Donc les choses ont été très rapides, elles avaient grande envie de se raconter. Pour les autres, ça a été plus difficile, il a fallu y revenir plusieurs fois. Je suis restée chez elle, je me suis invitée, j'étais retenue à dormir parce que j'étais loin de chez moi. Donc j'accepte toujours, ou je veux toujours rentrer par la petite porte quand je dis que j'ai conscience de ce que je suis ignorante et peut-être même pas très intelligente. C'est une posture qui me va très bien. Je veux me faire expliquer les choses en essayant de venir sans a priori, voilà. Après c'est compliqué parce que, je le disais, l'agriculture, ou je ne l'ai pas dit peut-être, mais c'est de la passion et de la souffrance. Et donc on aborde des choses douloureuses, des choses enfouies, loin, oubliées, ou qu'elles se sont promis de ne pas aborder et qu'en fait on aborde parce qu'on est bien à parler ensemble, hein, c'est parce que c'est une vraie rencontre. Et donc il y a des moments plus difficiles, il y a des désirs de ne pas poursuivre, il faut écouter, il faut accepter ça.
Comment on choisit ce qu'on garde, puisque pour chaque témoignage, on a à chaque fois moins d'une dizaine de pages, je dirais. Vous avez dû avoir une matière assez colossale si vous y avez passé du temps, que vous êtes resté dormir. Et vous avez gardé une tournure orale, je le dis, hein, dans les témoignages qu'on lit dans Paysanne. Comment on fait ces choix-là ?
Bah, c'est très difficile. C'est vrai que c'est très difficile. Et je trouve que le livre est un petit peu dense, un petit peu bourré, à craquer, parce que je n'ai pas voulu trop rogner sur les choses importantes qu'elle disait. Et qu'effectivement, j'ai ce souci-là de la parole de l'autre comme un signe d'appartenance à une génération, à un territoire et à un courant de pensée. Voilà. Donc c'était très important que leur parole soit présente et un tout petit peu d'explication autour, parce que même si c'est pas un terme, un livre technique, c'est quand même un vrai métier.
Donc, et puis il y a du jargon, on s'en rend compte,
oui.
Entre les kumas, les gaec.
C'est vrai, avec des petites notes de bas de page en renvoi pour nous éclairer sur les sigles.
Vous l'avez dit, vous faites le choix de rencontrer des agricultrices et des paysannes selon la façon dont elles considèrent leur métier en bio et en conventionnel. Vous l'avez déjà un peu dit, c'est pour laisser une tribune aussi à l'agriculture conventionnelle, leur laisser un droit de réponse. On lit en quatrième de couverture, entre guerre des prix, écologie, réchauffement climatique, la profession est sur la défensive ou au bord du gouffre. Et c'est en effet un peu le sentiment qu'on a à certains moments, pour ce qui est du côté défensif pas envers vous, mais surtout envers les consommateurs et les écologistes, pour faire court aussi à certains moments contre le système agricole dont ces agricultrices font partie. Cette parole-là...
C'est là toute la difficulté, sans doute, c'est que c'est lié, quoi. C'est très interdépendant. Donc, oui, que dire, elles sont sur la défensive, celles qui viennent du conventionnel surtout, c'est ça qui m'intéressait d'aller questionner. Vérifier comment elle vivait les choses. Et j'ai trouvé quand même des discours dans l'ensemble qui sont très, très conventionnels, très, très attendus, et qui me laissent penser qu'elles sont dans un schéma d'obéissance très important. Voilà. Elles, leur mari, et tout le monde autour qui constitue cette agriculture conventionnelle qui profite toujours à un petit nombre, on va dire. Elles sont entre le marteau et l'enclume. Il y a les distributeurs, il y a les banques, il y a le conseiller agricole, il y a les CUMA, il y a les coopératives, il y a le consommateur qui vit en dernier lieu, c'est vrai. Et quand on parle avec elles, on se rend compte qu'il n'y a pas beaucoup d'écoute pour elles, hein, qu'elles sont vraiment le dernier maillon et que beaucoup se servent sur le dos de l'agriculture et des agricultrices.
C'est là que c'est beaucoup lié au sentiment, de non-reconnaissance de l'effort qui est fourni.
Et d'incompréhension en réalité, parce qu'on découvre dans le livre, on le sait depuis longtemps, qu'elles sont en fait dans l'obéissance à un système qui se met en place à l'après-guerre, qui est intensif, extensif, productiviste, qui ne fait pas de cadeaux ni à la terre, ni à notre relation aux animaux. Et
ni aux hommes.
Ni aux hommes, tout à fait, exactement. Elles sont quand même les premières, ils sont les premiers à pâtir en fait de ce système-là. Hein. Ils se retrouvent très seuls au bout du compte quand les choses tournent mal, parce que ça arrive. C'est pas les banquiers, c'est pas les conseillers qui sont en cause. Hein. C'est ceux qui sont sur la paille, ce sont les paysans. Donc, c'est très difficile pour elles de prendre de la distance avec les choses et puis de changer. Des consignes qu'elles ont eues très clairement édictées, qu'elles ont appliquées pendant des décennies, qui ont fait l'unanimité. Et aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, elles sont taxées de pollueuses, d'assassins d'animaux, et donc il faut se débattre. Donc elles le disent. Il y a des soirs, elles ne veulent plus regarder la télé, elles ne veulent plus savoir, elles vont se coucher. Elles ne savent pas si le lendemain, elles auront encore le courage de refaire ce travail-là.
Il y a beaucoup de thèmes abordés au fil des près de 200 pages de cet ouvrage. Il y est question du travail très concret et donc de la terre, des animaux, mais aussi à côté des champs de la vie familiale qui est source parfois de soutien et d'autres fois de douleur. Et lorsqu'on sort de la ferme, de questions plus larges de société, notamment politique, alors politique agricole, là on l'a compris, mais aussi liée aux droits des femmes. On dit peut-être un mot là-dessus, c'est peut-être ce qui les relie, ces femmes-là, qu'elles aient eu des enfants ou non, qu'elles aient traversé la maternité, qu'elles soient en couple ou divorcées. Il est beaucoup question du droit des femmes.
Oui.
Qui a évolué.
Tout à fait. Le droit des femmes, leur place, leur désir d'exister de manière indépendante du couple qu'elles forment avec le mari. C'est vrai qu'en dépit des clivages, parce que c'est en vérité un livre très clivant, je les ai vues se retrouver sans se connaître autour de, sans doute, de la féminité, de ce qui fait les questions de... du corps féminin, de la façon dont on cultive la terre, on fait croître les choses, on donne la vie, on accompagne aussi la fin de vie avec les animaux. Il me semble que ça, c'est quelque chose qui est extrêmement féminin.
De la domination aussi,
que
ce soit dans la relation avec le conjoint ou de l'entourage très masculin quand on devient paysanne.
Oui, on a pu parler dans ce livre-là, à l'inverse des discrètes, de la violence qui est faite aux femmes, voilà, dans le couple. Ça, c'était assez nouveau, voilà. Des problèmes d'alcoolisme, enfin de choses qui sont tenues, qui étaient longtemps tenues secrètes par leur mère et leur grand-mère.
Parmi les 12 portraits réalisés, j'aimerais, pour terminer, m'arrêter sur ceux qui concernent notre territoire, le département d'Ille-et-Vilaine. Il y a d'abord Thérèse, qui est celle qui ouvre le livre, ce livre paysanne. Thérèse, elle habite près de Rennes, près d'une rivière qui s'appelle le Meux. Elle est à la fin de sa carrière quand vous la rencontrez et elle défend toujours l'idée de faire autrement. Elle était un peu précurseur sur ces questions-là.
Oui, tout à fait. Hein. C'était les années 90, elle s'est fait beaucoup montrer du doigt. Elle a toujours été tout à fait pionnière, en fait, hein, Thérèse, pour toutes sortes de choses touchant au rapport à la terre, aux animaux, mais aussi à la place des femmes. Et voilà, elle a revendiqué des choses très importantes, comme la liberté de choisir d'avoir des enfants ou pas, de se mettre en couple ou pas. Elle a été formatrice parce qu'elle pensait que c'était très, très important d'aller parler aux jeunes, hein, du métier. Aujourd'hui encore, elle reste très très militante sur les questions de responsabilité qu'on a tous individuellement aussi, dans la façon qu'on a de se nourrir notamment.
Et elle défend le système herbager, c'est-à-dire d'avoir l'herbe pour nourrir ses vaches plutôt que de dépendre d'alimentation extérieure.
Elle dit qu'elle est là la modernité aujourd'hui.
Et puis en fin d'ouvrage, une toute autre histoire, c'est celle de Flora, une jeune femme qui, vous allez le détailler, mais ne parvient pas à faire aboutir son projet de ferme florale. Ça a peut-être bougé depuis l'écriture du livre. C'est dans un chapitre qui s'appelle « Inspirer le monde ». Elle est à Bollon au moment où vous la rencontrez. Elle rencontre des difficultés d'installation. Ça, c'est aussi un autre sujet d'actualité.
En fait, la grosse difficulté pour son travail, c'est qu'elle est débordée de travail. Elle est seule, elle vit dans un petit mobil-home, voilà, au milieu de rien, au milieu de ses fleurs. Elle travaille énormément, avec des toilettes sèches, une douche à l'eau froide. C'est dans des conditions très, très frustes, en fait. Très motivée, avec un beau succès, mais elle est débordée par le travail et puis l'insuffisance de ressources, en fait. Hein. On travaille beaucoup pour assez peu, finalement. Donc, Flora, elle a choisi de se mettre en pause un petit peu au niveau du travail. Elle reste très attachée à ses terres, toujours attachée aux terres de Bretagne, mais elle a levé le pied pour l'instant.
Ces 12 femmes qu'on rencontre dans votre livre, Anne Lecourt, certaines se sont déjà rencontrées, je crois, lors d'une rencontre le mois dernier. Et vous avez l'ambition, vous aimeriez bien qu'elles puissent toutes se rencontrer, c'est encore un de vos rêves.
Oui, tout à fait. J'avais un petit peu raté ça avec les discrètes, on ne l'avait fait qu'une seule fois, et là on l'a fait une ou deux fois déjà. On a une belle rencontre qui va se tenir à Montfort-sur-Meu, à la Girafe, la médiathèque, le 30 septembre, où là on a vraiment toute une après-midi qui leur est consacrée. Je vais rester sur le côté, à faire quelques lectures, simplement. C'est elles qui sont au centre, parce que c'est leur livre, voilà. On s'est vus à l'Espace Ouest France, on est allés manger ensemble, et là j'ai eu la belle surprise de les voir se retrouver comme des sœurs, en fait. La sororité, c'est très important. Pour moi aussi, c'est un guide. Et finalement, je les ai vus repartir dans la nuit, après la soirée, se tenant par le bras, sautillant dans la rue, et m'ayant en quelque sorte oublié. Et j'étais très touchée. Je suis pleine de gratitude pour ces rencontres-là. Et ce lien qui se fait, parce que les livres, c'est fait pour ça. Hein. C'est pour qu'on crée du lien, qu'on se rencontre et qu'on parle des choses importantes.
Autre rencontre qu'on annonce, elle aura lieu la semaine prochaine au Jeu de Paume, en plein cœur de ville, ici à Rennes. Une rencontre organisée en partenariat avec la librairie Planète.io et puis animée par le web magazine Braise Femme. Ça se passe jeudi 22 juin à partir de 18h. Je vous représente Anne Lecourt, vous êtes l'autrice de Paysanne, un ouvrage qui est paru aux éditions Ouest France au printemps. 12 portraits illustrés en photographie, on ne l'a pas dit. Et le tarif pour acquérir cet ouvrage, c'est 15 euros. Merci beaucoup.
Merci Lucie. Quit messing around with every man in town. If you want me, baby, you know I'll be around. Oh, it's a shame you keep playing games. Baby, stay cool. Stake your claim on me. When I told you I love you, you just looked away. But when I went for the door, you begged me to stay. If you love me, baby, take my name. Stake your claim. Oh, stake your claim. Yeah, yeah, yeah. You can't tie me down, yeah, and still be free. You got me chained and bound, baby. I'm in misery. If you want me, baby, you know I love you so. But if you don't say those three little words, got to let you go. Oh, you ain't the only girl to hold my hand. But if you just say the word,
Take Your Claim par Ellie Pepperboy Reed and the True Loves. C'est un morceau extrait de l'album Roll With You qui est sorti en 2008 sur le label Yep Rock, et c'est le premier disque à cette époque de ce musicien et chanteur américain résolument soul. Depuis, il en a sorti d'autres, le dernier c'était en 2022. Vous êtes dans l'Arène, l'émission d'information locale de Canal B. On va poursuivre et terminer avec une recommandation. Et oui, car à chaque fois, en fin d'émission d'Info Locale, je vous donne des conseils de choses à vivre, à vous mettre dans les oreilles ou à lire. Là, deux recommandations pour occuper votre dimanche. D'abord, on prend la direction de Chantepie, où le collectif Les Folles Épies organise une journée du vivant. C'est une deuxième édition et ça se déroule rue Charles de Gaulle autour d'une yourte, a priori. Au programme de la journée, le matin pour commencer, de 9h30 à midi, le public pourra participer à des balades naturalistes, découvrir un inventaire de la biodiversité cantepienne ou encore tenter un atelier d'écriture. L'après-midi, une réflexion sera proposée autour des actions de ce collectif Les Folles Épies. Pour les enfants, ce sera atelier de philosophie avant un moment conte et concert à partir de 16h15 et jusqu'en soirée. Pêle-mêle toute la journée, il sera possible de participer à la construction d'un hôtel à insectes, de filer un coup de main pour entretenir l'îlot fruitier et de jeter un œil à une exposition de gravures. Pour plus d'infos, il y a le site collectif-lesfolleepies.org. Et le deuxième conseil, toujours pour dimanche 18 juin, on les a reçus cette semaine, c'est la Basse-Cour qui fait son marché festif 4e édition, un marché de produits locaux organisé en partenariat avec le Jardin des Mille Pas, juste à côté de la Basse-Cour, on est dans le quartier de la Prévalais. Le marché, il débutera à 11h et cette année, nouveauté, il sera possible de remplir son panier pour participer ensuite à un pique-nique paysan sur place. Tout le détail en ligne sur labassecour.org. C'est terminé, une émission d'information locale à écouter du lundi au vendredi à 17h et puis en rediffusion à chaque fois le lendemain à 8h. Pour les podcasts, ça se passe sur le site canalb.fr. Je vous dis à très bientôt sur Canal B. Je vais faire la fête.